Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi. Ben voyons, ça commence mal. Merci d'avoir choisi. Ça marche pas. Ben c'est pas, ça doit être parce que c'est un petit lundi. Bonjour, merci d'avoir choisi Cube Radio. Ça me fait plaisir de retrouver le micro et ça me fait surtout plaisir de retrouver ma prochaine invitée, Debbie Lynch-White. Surtout que le sujet dont on va parler avec Debbie aujourd'hui, on va parler d'amour. Debbie, bonjour.
Bonjour.
Debbie, vous êtes une actrice animatrice adorée des Québécois. D'ailleurs, ma collègue Marianne Bessette, juste avant qu'on entre en onde, me dit ta première invitée est au téléphone. Debbie est au téléphone, ou plutôt devrais-je dire Nancy. Ce personnage-là, Denis Teneuve, vous a tellement marqué. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des gens dans la rue qui, au lieu de vous appeler Debbie, vous appellent Nancy?
Il m'appelle pas Nancy directement, mais je me fais encore beaucoup parler du
Ça
a été marquant, c'est sûr.
Absolument. Inoubliable. Écoutez, moi, je voulais vous parler, quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle avec Debbie. Vous êtes en train de préparer une série documentaire qui s'intitule Amour libre, qui sera présentée prochainement, l'an prochain, en fait, sur Moi et compagnie, où on s'intéresse à toutes sortes de déclinaisons de relations, de couples. Et c'est une idée à vous. Comment l'idée vous est venue, Debbie?
Écoutez, c'est vraiment suite à toutes sortes de conversations que j'ai dans mon entourage avec des amis, suite aussi à l'écoute du podcast Le cœur sur la table, que j'ai adoré. Toutes ces conversations-là dans les dernières années m'ont beaucoup ouvert sur tous les nouveaux modèles, toutes les nouvelles façons de s'engager. J'ai des amis qui sont en couple ouvert, donc je leur ai posé toutes sortes de questions au fil du temps. Puis à un moment donné, j'ai fait, ah mon Dieu, faut parler de tous ces modèles-là. Je pense que de plus en plus, on fait éclater le modèle traditionnel, bien qu'il continue de convenir aussi à une majorité de personnes. Mais de plus en plus, on fait éclater la famille, le couple et tout ça, et on trouve toutes ces nouvelles façons-là de s'engager en amour. Puis je trouve ça super pertinent, en fait, d'en parler, mais aussi moi-même d'aller à la rencontre de ces personnes-là pour m'éduquer, pour apprendre, pour me sensibiliser à l'autre aussi. Je trouve ça toujours super intéressant.
Et sans jugement, bien sûr, parce que il faut aussi que vous ayez la confiance des gens qui acceptent de témoigner à visage découvert, j'imagine, et de dire, ben moi, moi je suis libertin, moi je vais dans des clubs échangistes, moi je suis polyamoureux, moi j'ai aucun intérêt pour la sexualité. Ça prend quand même si en 2022, on est quand même assez ouvert sur la sexualité, tout ce qui est une sexualité différente ou une relation de couple différente, je trouve que ça prend du courage pour en parler publiquement quand même.
Oui, je pense que oui, en effet, c'est encore tabou. Il y a encore beaucoup de préjugés, de tabous. Moi-même, j'en avais, et moi-même, ils sont chaque jour déconstruits.
J'adore!
Et je trouve ça super. Puis, mais à date, on a fait que quelques jours... On est dans le début des tournages encore, mais chaque jour, chaque rencontre que j'ai fait, et même les personnes que je m'apprête à rencontrer dans les prochains jours, je sens vraiment cette générosité-là de leur part de vouloir partager leur histoire. Les gens sont prêts, les gens veulent en parler, ils sont hyper généreux, puis je sens beaucoup à date cette volonté d'éduquer, parce que il y a un lexique qui vient avec ça. Tu sais, samedi, j'étais dans un groupe de personnes asexuelles. J'avais mille et une questions pour eux et elles. Et j'ai découvert, tu sais, qu'il y a tout un lexique qu'on connaît pas. Il y a vraiment des termes, des expressions, des façons. Tu sais, le polyamour aussi, là, il existe toutes sortes de polycules et tout ça. Donc, Je sens vraiment que les gens ont cette générosité-là, en tout cas, de vouloir partager leur expérience puis de vouloir éduquer. À date, en tout cas, les rencontres sont vraiment super. Puis, je pense qu'eux sont prêts, en tout cas, à en parler.
Alors, parlons justement de lexique. Faisons-en un petit peu d'éducation ensemble. C'est quoi un trouple?
Bien, un trouble, c'est trois personnes qui sont en relation ensemble. Donc, ça peut être deux gars, une fille, trois hommes, trois femmes, deux filles, un gars. Il y a toutes sortes de façons aussi, là, toutes sortes de follicules qui existent. Puis je m'en vais justement mercredi prendre une bière avec un groupe de polyamoureux. Et donc, oui, un trouble, c'est trois personnes qui vivent l'amour ensemble, qui vivent une relation ensemble. Je vais rencontrer trois papas qui sont papas d'un enfant. Donc, c'est vraiment fascinant.
Mais on vit vraiment une époque extraordinaire parce qu'il y a comme cette liberté-là qui fait en sorte qu'on peut réinventer des modèles. Et puis, en même temps, à côté de ça, il y a aussi des gens qui ont des couples très traditionnels. Vous nous avez parlé, de cette curiosité-là que vous aviez, mais en même temps, cette volonté d'éduquer. Donc, vous diriez que c'est quoi le plus gros mythe ou le plus gros préjugé que vous-même, Debbie Lynch White, vous aviez peut-être par rapport à certaines de ces personnes-là ou de ces pratiques-là?
Je pense qu'une question que j'avais beaucoup au début, c'était par rapport à la jalousie, aux insécurités. Tu sais, je me dis, mon Dieu, tu sais, comment on vit ça? Tu sais, parce que c'est sûr qu'il doit y avoir des moments où on a des insécurités qui font surface, où on se sent jaloux et tout ça. Mais après ça, j'ai aussi compris qu'on peut changer notre perception de la fidélité, notre rapport au concept de jalousie. Ça demande de la communication, ça demande du travail sur soi, ça demande du travail ensemble, entre partenaires, mais je pense vraiment que c'est possible. Puis ce que je trouve beau, en tout cas dans tous ces modèles-là, c'est que les individus se mettent au service des besoins de l'autre aussi.
C'est intéressant.
Donc,
ça.
Tu sais, cet angle-là de se dire, OK, d'être au service de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, toi. Je t'aime et je veux t'offrir ce dont tu as besoin pour combler ta sexualité ou pour est-ce que c'est aimer plusieurs personnes, est-ce que, tu sais. Puis je me rends compte, en fait, aussi que l'amour, c'est pas unidirectionnel, c'est pas, tu sais, chacun le vit à sa façon, mais différents amours peuvent coexister, différentes façons d'aimer. Tu sais, je pense que un peu comme en amitié, il y a ça qui existe pour eux, en tout cas, dans l'amour. Mais oui, j'avais toutes sortes de questions, là, notamment comme sur, par exemple, avec les personnes asexuelles, qu'est-ce qu'on fait quand nous, on est d'orientation asexuelle, mais que notre conjointe ne l'est pas? Est-ce que le couple ouvert à ce moment-là est la seule solution? Comment on gère tout ça, tu sais. Fait que c'est super intéressant, vraiment, tout ce que j'apprends.
Est-ce que ça nous confronte à nous-mêmes? C'est-à-dire que, vous êtes en couple. Est-ce que, je ne veux pas rentrer dans votre intimité, mais de façon générale, moi, par exemple, je suis en couple aussi. Si j'allais faire un reportage, justement, sur les gens polyamoureux puis les couples ouverts, c'est sûr que ça donnerait lieu, avec M. Martineau, à des conversations après le souper avec un petit verre de Perrier. Est-ce que chez vous, dans votre couple à vous, ça provoque aussi des réflexions, en tout cas?
Ah oui, absolument. Absolument. Ma blonde et moi, on discute beaucoup de toutes sortes de choses en général. Puis c'est sûr que quand je reviens, je lui partage ce que j'apprends. Puis tu sais, on est très ouverte à... Tu sais, c'est des discussions qu'on a déjà depuis longtemps avec des amis. Puis il y a quelque chose là, en tout cas, qui est... Je trouve ça intéressant de repenser des idées qu'on peut avoir ou des idées préconçues. Tu sais, en fait, le modèle traditionnel dans lequel on est éduqué, puis on nous dit que c'est comme ça qu'on doit aimer, que c'est comme ça qu'on doit vivre notre engagement, puis il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais je pense en tout cas que c'est bien de le re-questionner ou de se dire, ben si je choisis ce modèle-là, je veux au moins que ce soit un choix et non parce que je veux avoir vu toutes les possibilités, puis faire, OK, moi, c'est de ça, nous, c'est de ça qu'on a envie, et on est bien là-dedans, puis c'est bien correct. Mais j'espère, en tout cas, que c'est un choix et qu'on prend pas, tu sais, cette recette-là un peu pour acquis, puis qu'on se dit, bon, ben, c'est comme ça qu'on doit faire, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, oui, c'est sûr qu'après mes rencontres, j'ai toutes sortes de réflexions avec ma blonde qui sont des conversations super intéressantes.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu le couple IKEA, hein. Assemblez-le vous-même, puis...
Oui, ben tu sais, on est élevé là-dedans, mais je pense qu'au fil du temps, c'est bien qu'on l'ébranle un petit peu. Puis tu sais, je suis allée magasiner une robe de mariée avec une jeune femme qui se marie monogame bientôt, et j'étais vraiment dans la tradition de ces symboles-là du mariage, cette tradition-là, mais je voyais que pour elle, c'était un choix, c'est de ça qu'elle avait envie, puis ça aussi, ça existe. Je veux vraiment pas pointer aucun modèle du doigt, je veux faire un genre d'état des lieux, tu sais.
Ouais, état des lieux, j'aime beaucoup l'expression, tout à fait, et... Donc, moi, je veux que vous me racontiez, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine. J'ai jamais mis les pieds dans un club libertin. Et vous, vous y êtes allé. Je veux juste que vous me racontiez, sans nommer de nom, là, sans me parler de Ginette et Gérard, mais ça se passe comment? Puis qu'est-ce qui vous a le plus surpris lors de votre visite?
Énormément de choses. ça a été une super soirée. Cet aspect-là du documentaire, je l'aime beaucoup. T'sais, on n'est pas tout à fait dans la même forme qu'Histoire de Coming Out, c'est-à-dire que il y a des segments d'immersion où est-ce que je fais juste vivre des trucs comme aller au club libertin. Mais mon Dieu, je pense que j'avais beaucoup de préjugés envers ces endroits-là. Peut-être pas des préjugés défavorables, mais c'est de l'ignorance en fait. Là, Et je me suis rendu compte à quel point, mon Dieu, c'est vraiment les gens étaient. Il y a vraiment une liberté là qui est super intéressante. Les gens sont super assumés, super décomplexés.
Ah ouais.
Très très respectueux. La notion de consentement est extrêmement importante, tu sais. Et il y a de la sécurité. C'est pas on fait ça n'importe où, on rentre puis on se prend un coin puis c'est super bien structuré, tout se passe au deuxième étage. Quand c'est la première fois que tu y vas, tu fais la visite en haut, ils t'expliquent les règlements, ils t'expliquent tous les codes, tu sais, si un couple est dans une chambre, la porte est fermée, ça veut dire qu'ils veulent pas de visite, vous pouvez regarder. Si un couple avec la porte ouverte, ça veut dire que vous pouvez vous présenter sur le pas de la porte et dire est-ce que je peux me joindre à vous? Et eux vont dire oui ou non. Donc, tu sais, il y a vraiment, et ces règles-là sont vraiment bien respectées. Puis, il y a quelque chose de très décomplexé dans cet endroit-là et de très bien structuré et respectueux que on dirait que c'était pas l'image que je me faisais de ce genre de club.
Ouais. Et il y a aucun moment où vous vous êtes senti, parce qu'il y a un côté voyeur quand même, parce que vous regardez d'autres gens avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, ah, j'ai l'impression d'être trop dans l'intimité de quelqu'un que je connais pas, ou puis vous aviez évidemment quand même une caméra qui vous suivait. Est-ce que vous avez ressenti à un moment donné une gêne où vous avait dit, ben là, je préfère m'en aller. Je sais pas, j'essaie juste de voir. Moi, il me semble que je serais gênée à un moment donné, mais je veux juste vous entendre là-dessus.
Oui, ben, en fait, c'était pas une gêne au point de vouloir m'en aller, mais j'étais absolument déstabilisée. Là.
Ouais.
J'étais pas dans ma zone de confort. mais le sentiment que j'ai eu dès le début... puis c'est ça qui était trippant en même temps.
Ouais.
C'est le sentiment, j'avais l'impression d'être dans une autre réalité. Il y avait quelque chose de surréaliste, parce qu'on connaît pas ces environnements-là, on vit pas ce genre de situation-là. J'avais l'impression limite d'être dans un film, tu sais.
Dans Eyes Wide Shut?
Ben oui, absolument. mais j'avais vraiment cette impression comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et oui, tu sais, je pense que j'avais une certaine timidité, mais après ça, je pense que je voulais pas trop la faire ressentir pour pas que les autres soient mal à l'aise.
Je comprends.
Aussi, que, donc tu sais, j'y allais avec, tu sais, j'étais là pour faire ce que j'avais à faire et tout ça, Mais puis tu sais, on n'a pas, je veux dire, j'ai pas passé énormément de temps, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas capté sur caméra des grands débats sexuels et tout ça, tu sais, on laissait l'intimité aux gens, je évidemment, comprends. Là. Mais ouais, c'est vraiment très décomplexé comme endroit, puis très, tu sais, les gens qui vont là, c'est n'importe qui qu'on croise dans la rue, là, c'est des gens de 25 à 55 ans, tu sais, c'est vraiment, j'avais l'impression d'être dans un bar assez traditionnel, ou est-ce que on peut aller au deuxième étage s'amuser à un moment donné?
C'est fou quand même. Mais c'est ça qui est formidable de faire des documentaires, c'est qu'on peut se placer dans des situations ou avoir accès à des choses où on n'irait pas spontanément. Je pense pas que vous lèveriez un matin, puis en même temps ce serait correct aussi, là, en disant viens-t'en, Minou, on s'en va dans un club échangiste. Mais, mais pourquoi pas? Parce que toutes ces réalités-là existent. Je veux juste revenir, Debbie, puis j'adore notre conversation, juste revenir sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure quand on parlait justement de ces couples différents, de ces différentes formulations de couples, la notion de jalousie justement quand il y a donc un couple ouvert ou quand il y a un couple qui est un trouple en fait, trois personnes, cette notion-là de jalousie, moi c'est toujours ce qui m'intrigue et j'ai de la difficulté à croire qu'on puisse être trois ou quatre ou en tout cas peu importe, ou un couple ouvert et qu'il n'y ait pas, à un moment donné, un des deux à l'intérieur du couple qui dit « Bon, ben là, tu sais, ça fait trois fois que tu sors cette semaine, aller voir quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que tu l'aimes plus, elle ou lui, que tu m'aimes moi? » Donc, est-ce que vous avez eu la réponse ou est-ce que vous allez avoir la réponse à votre question sur la jalousie?
Oui, j'ai déjà des pistes. Bon. C'est en processus absolument, mais oui, je pense que c'est sûr que ces épisodes-là arrivent. T'sais, on est tous humains, là. On va pas se mentir. Je pense que c'est sûr que ça arrive, mais je pense que t'sais, les personnes sont capables de se parler, de communiquer, de se rassurer. Puis, je pense vraiment que c'est une question de perception aussi, de perspective, dans le sens que de ce que je comprends, t'sais, de se mettre à l'écoute des besoins de l'autre, déjà, c'est une posture qui est parfois différente de certains couples qui sont pas ouverts, mais c'est aussi de ce que je ressens, c'est que les gens semblent dire que pour eux, que leur conjoint conjointe aille voir ailleurs ou soit en amour ailleurs en plus de leur relation et tout ça, ils ont le profond sentiment que ça ne leur enlève rien.
C'est ça, ça s'additionne au lieu de se soustraire. Ça, je l'ai entendu exactement. Souvent. J'ai de la difficulté à l'intégrer, mais je le respecte, mais je le comprends pas. Ouais.
Oui, puis je pense qu'il y a nécessairement un chemin à faire entre le comprendre et le ressentir émotionnellement. T'sais. Je pense que, je veux dire, faut que tout ça s'arrime à un moment donné. Et c'est là, je pense que les lectures deviennent intéressantes, les discussions, mais je pense que c'est des je pense qu'on peut changer notre vision de la jalousie, notre rapport à la fidélité. Tu sais, un couple que j'ai rencontré me disait, ils sont en couple ouvert et ils me disaient pour nous la fidélité c'est la vérité. Donc pour eux, tu sais, ils sont pas dans le même concept de fidélité, tu sais, parce qu'évidemment ils couchent ailleurs là, mais pour eux c'est de se dire la vérité, c'est c'est ça, ils ont dit pour eux, la fidélité, c'est l'honnêteté.
L'honnêteté, d'accord. Donc, que si on est infidèle, c'est parce qu'on trompe, mais sans le dire. Donc, si l'autre, à partir du moment où l'autre le sait, ça n'est plus trompé, c'est ça?
Oui, mais en fait, c'est de se dire, on est en couple ouvert, voici nos limites, parce que chaque couple a ses règles, chaque modèle vraiment se construit à sa façon, et selon les limites, les sensibilités de chacune. Mais c'est... c'est de se dire, mon Dieu, excusez, j'ai perdu mon idée. Je me suis emballée.
Mais on parlait de l'honnêteté, mais c'est pas grave, Debbie. Vous allez retomber sur vos pattes. L'honnêteté. Oui.
C'est de se dire qu'on se dit tout. Mm-hmm. Si, par exemple, je ressens quelque chose pour je fais une nouvelle rencontre dans ma vie qui me bouscule, que j'ai du désir ou que j'ai de l'amour ou peu importe, ben, on s'en parle. Si je vis telle affaire avec une autre personne, on s'en parle, ce qui fait que cette cellule-là à deux reste toujours la cellule principale et la priorité et l'équipe principale. Donc, dans cette, je pense que de ce que je comprenais, du moment où cette honnêteté-là qui est bafoué ou il y a du mensonge et tout ça, ben là, ça fait aussi mal qu'une infidélité, tu sais.
Ouais. Ben écoutez, moi je trouve ça absolument passionnant. Je suis un peu jalouse puisque c'est le thème de notre discussion. Je suis un peu jalouse de votre documentaire, ces genres de sujets.
On retournera au Club Liberté ensemble.
Ben je pense qu'on a une nouvelle ici. Debbie invite Sophie à une visite au club.
Là.
Mais je pense que Richard va vouloir demander à être présent pour regarder. Non, non, je vous taquine, Debbie. C'est vraiment, je trouve, c'est extrêmement intéressant comme exploration. Et surtout, ça nous ramène à quelque chose qui est assez fondamental, selon moi. C'est que la sexualité, les relations intimes, c'est mystérieux. Il y a tellement de zones d'ombre. C'est en effet comme une autre planète. C'est comme il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots. Ça se passe beaucoup entre les deux oreilles et c'est vraiment une exploration absolument fascinante. Merci beaucoup. On a très, très hâte de voir ça. Merci beaucoup, Debbie. Et continuez votre beau travail. Je suis sûre que ça va être drôlement intéressant parce que votre autre série, justement, sur le coming out, histoire de coming out, c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc, j'ai tout à fait confiance que celui-là va l'être aussi. Merci beaucoup, Debbie Lynch-White.
Merci, bye-bye.
Ça va être présenté donc l'an prochain sur la chaîne Moi et compagnie et ça s'intitule, le titre est parfait, Amour libre.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
Bonjour Steve, est-ce que tu sens le découragement? L'entends-tu le découragement dans ma voix?
Je sais de quoi on va parler et je le partage, ma chère, je le partage.
Alors, on parle de la situation au Musée des Beaux-Arts du Canada, qui est un musée qui est en train d'être kidnappé par une sorte d'idéologie néo-progressiste, de décolonisation, de diversité, inclusion, équité, mais poussée à l'extrême. Et il y a eu un texte dans le Devoir où on racontait, moi personnellement, c'est ça qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, que quand le Musée des Beaux-Arts, qui est quand même notre musée national au Canada, avait été approché pour le 100e anniversaire de Riopelle, les gens étaient réticents parce qu'on n'avait pas envie de rendre hommage à un autre homme blanc.
Quand j'ai lu ça, c'est la finale du texte en question de Stéphane Baillargeon, donc on y dit là-dedans là, que la grande rétrospective qui sera consacrée, parce que ça va avoir lieu...
Elle va avoir lieu, oui.
Oui, à l'automne 2023. Donc, il y a un grand collectionneur, deux grands collectionneurs, Pierre Lassonde, Sylvie Lasserre, qui ont confié à Radio-Canada que l'idée de présenter un autre hommage à un homme blanc n'attirait pas la direction, qui a finalement appuyé bien mollement la chose. Mais franchement, on parle de Jean-Paul Riopelle.
Mais oui.
Ce qui est en train de se passer là-bas, là, et le texte de Baillargeon le place de manière brillante, mais on en a aussi parlé à d'autres antennes et ici. Il y a eu des entrevues qui ont été faites, mais pas par les principaux intéressés qui, dans leur tour d'ivoire, ont décidé de ne pas parler et de ne pas répondre de ça. Mais pourtant, c'est important de voir ce qui s'en vient là parce que, en gros, là, ce qui est en train de se passer, puis Baillargeon le dit bien d'entrée de jeu dans son texte, la révolution diversitaire est engagée au Musée national des Beaux-Arts du Canada. Des têtes roulent, des tensions qui gonflent. Mais il rappelle aussi que ça a lieu à Radio-Canada, CBC, Bibliothèque, Parti politique, l'espace
public,
la toponymie, partout. Et je suis content qu'il le place comme ça parce que moi, je vois souvent des gens qui, des tenants, les plus ardents défenseurs sur les réseaux sociaux de ce courant néo-progressiste-là disent toujours, oui, mais comparons à l'extrême droite, puis là, ils s'en vont tout de suite aux États-Unis. Tous les attentats, puis c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a plein d'attentats. L'écrasante majorité des attentats sont faits par des gens de l'extrême droite. Mais on n'est pas aux États-Unis, pas plus pour cette idéologie-là que pour ce qui se passe chez nous. Puis, on ne peut pas redéfinir notre société en fonction des courants qui se passent là-bas. Et à cause de ça, à un moment donné, ça devient un petit peu... C'est plus qu'embarrassant. Ça devient carrément, comme tu le disais d'entrée de jeu, décourageant de voir à quel point on est en train de procéder à un abordage idéologique qui semble immuable Et comme si on ne pouvait pas le contester, ouais, ben, il faudra qu'on le conteste et de manière très, très virulente.
Et c'était surprenant quand même que le texte soit publié dans Le Devoir, parce que Le Devoir, à lire certains chroniqueurs, c'est quand même justement assez biaisé dans ce sens-là. Écoute, je veux juste revenir avec toi sur un texte que j'avais écrit cet été dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, en juillet, où je parlais justement du Musée des Beaux-Arts du Canada, parce qu'ils ont ouvert un poste très, très, très bien payé, là, autour de plus de 100 000 $ par année. Et c'est un poste de directeur anti-racisme et inclusion, un poste qui relève de la dirigeante principale de la stratégie et de l'inclusion au sein du département de transformation stratégique et inclusion. Et c'est quelqu'un qui devient conseiller en diversité et en inclusion et tout ça. Et la question que je posais dans mon texte, c'est que je disais, c'est quand même bizarre parce que c'est une offre d'emploi pour ce Musée des Beaux-Arts et rien dans l'offre d'emploi ne parle de « Mais connaissez-vous ça, l'art, vous, pour aller travailler dans un musée des beaux-arts? » Non, c'était connaissance en formation, en inclusion, en équité, en ci, en ça, puis décolonisation, machin, truc, bin, machin, chose. Hey, on est en train de parler d'un musée. On peut-tu, s'il vous plaît, parler d'art? Riopel, la même chose. Est-ce que Riopel, c'est un artiste majeur? Oui. On s'en fout qu'il y ait des testicules. On s'en fout qu'il n'y ait pas de mélanine dans sa peau. C'est rendu une... C'est débile. C'est débile, débile, débile.
Je me souviens de ce texte-là, Sophie. Je me souviens très bien de ça. Et j'avais pensé exactement la même chose. Et ça m'avait fait penser à ce qui se passe, par exemple, le prof François Bernier le dénonce. Il y a un poste, il l'a dit lui-même, hein. Moi, j'ai un poste de prof permanent, fait que je peux dénoncer ce qui se passe dans mon université. Et il ne s'en cache pas. Puis récemment, il disait, ben, où est la compétence dans les offres d'emploi à l'Université d'Ottawa, par exemple, quand on fait intervenir maintenant des gens, des communautés autochtones qui n'ont pas de formation universitaire, puis ils vont participer maintenant à des concours de sélection pour l'université. Puis là, ce qui arrive dans ce qui est en train d'arriver avec ça, c'est qu'on crée justement, on en parle au Musée des Beaux-Arts du Canada, mais c'est comme ça, par exemple, à la Ville de Montréal, il y en a dans beaucoup d'organisations. Oui. Maintenant, on crée des divisions, des directions générales complètes à partir de ce thème-là, le thème de diversité de l'EDI, finalement. Cet abordage idéologique-là, quand il s'installe comme ça, je veux absolument qu'on revienne à quelque chose que Gérard Bouchard a écrit. Ah, Gérard Bouchard, c'est un intellectuel que je respecte parce qu'il s'est toujours respecté lui-même. Et quand c'était le temps de parler, par exemple, du projet de loi de la Charte des valeurs à l'époque, le projet de loi 60, ou, par exemple, en ce moment, le projet de loi, la loi 21, mais par rapport au courant néo-progressiste, il a écrit ceci dans Le Devoir il y a un petit bout de temps. Un nouveau courant d'idées prend de l'ampleur au Québec. Il s'agit d'une pensée radicale de gauche d'allégeance wokiste qui assimile notre passé à une vaste entreprise colonialiste et raciste. Puis plus loin, il dit, les Québécois sont en quelque sorte sommés de se redéfinir en profondeur leur mémoire et leur identité en fonction de courants américains, de nations et de notions colonialistes américaines. Puis on s'attaque comme ça, finalement, par une façon, une manière de penser au sud des États-Unis, au sud de chez nous, aux États-Unis, il faudrait qu'on redéfinisse nos propres rapports à notre histoire nationale et à notre nationalisme nous-mêmes. Ça ne tient pas la route. Et je suis content de voir que Gérard Bouchard l'avait dénoncé dans ces mots-là.
C'est surprenant, en effet. C'était le 28 novembre dans Le Devoir. Et c'est intéressant parce que tu me parles de Gérard Bouchard aujourd'hui, parce que pas plus tard que vendredi, à l'émission Le Monde à l'envers, Stéphane Bureau avait invité Lucien Bouchard, donc le frère de Gérard Bouchard. Et il parlait justement de son inquiétude par rapport à la censure qu'il y a en ce moment avec les mots interdits. On peut peut-être en écouter un tout petit extrait. Je n'avais pas du tout prévu de tirer là. Fait que, écoutons juste un tout petit bout de Lucien Bouchard.
C'est peut-être mon âge, là, mais je vois des choses qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, dans certaines organisations, les journalistes se fassent montrer un dictionnaire de mots à ne pas prononcer. C'est de la censure.
Alors, il compare ça à l'époque où la religion censurait des mots, la religion censurait des livres. Donc, tu mets Lucien Bouchard qui dénonce ça, Gérard Bouchard qui dénonce ça, de plus en plus de gens dans les médias dénoncent ça. À quel moment on va se réveiller?
Moi, je pense que on va arriver bientôt à un point de rupture parce que ce qui se passe au Musée des Beaux-Arts du Canada, quand même, là, il faut le dire, là, c'est le syndicat qui représente le 4/5e des employés qui sont là. À une autre antenne, j'ai entendu quand même quelqu'un du syndicat qui disait, ben écoute, il y a littéralement un climat d'inquisition. Il y a des gens qui voudraient dénoncer, mais qui ne le font pas. Mais ça va prendre justement plus de gens en position qui sont positionnés pour être capables de dénoncer. Je parlais du prof Bernier, mais il n'est pas le seul. Oui. Ça va en prendre d'autres, des gens comme ça, à un moment donné, qui vont se dresser puis qui vont dire, ben à l'Université d'Ottawa, notre rectorat, ça n'a pas d'allure ce qu'il fait. Ça, ça prend ça, mais ça va prendre ça dans des organismes aussi comme le Musée des Beaux-Arts du Canada, parce que la fonction de ce musée-là, quand même, il faut pas l'oublier, c'est le vaisseau amiral.
Absolument.
De toute la muséologie au Canada. Puis si ça commence là, ben ça va percoler jusque chez nous.
Tu as tout à fait raison, Steve. Alors, je tiens quand même à signaler pour les lecteurs du Journal de Montréal et le Journal de Québec, rien de tout ça n'est une surprise, parce que des gens comme Joseph Facal, comme Denise Bombardier, comme Mathieu Bock-Côté, comme moi, comme Richard, ben ça fait des années qu'on le dit, et ben tout d'un coup, quand c'est écrit dans Le Devoir, évidemment, certaines personnes le prennent au sérieux, mais je pense que c'est important de souligner que ça fait longtemps qu'on en parle. Merci beaucoup, Steve.
Oui, salut.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Si vous avez plus de 25 ans, vous l'appelez Mathieu Dufour. Si vous avez moins de 25 ans, vous l'appelez Matt Doff. Il est humoriste, animateur et personnellement, il me fait rire à chaque fois. Bonjour. Donc, moi, j'ai plus de 25 ans. Je vais vous appeler Mathieu Dufour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on se parle.
Oui, c'est la première fois. Je suis vraiment très content aussi.
Alors, écoutez, moi, vous me faites rire à chaque fois que je vous entends, que ce soit à la télé, à la radio, peu importe, n'importe où, vous me faites rire à chaque fois. Puis la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, Mathieu, c'est parce que vous avez un spectacle qui avait été tourné cet été au Centre Bell au mois de juillet, qui va être disponible bientôt sur Netflix à partir du 22 décembre. C'est la deuxième fois qu'il y a un humoriste québécois. La première fois, c'était Martin Matt. Vous marchez dans des grands souliers. Martin Matt, Mathieu Dufour, c'est énorme ce qui vous arrive.
Ben vraiment, vraiment. Puis on dirait qu'à chaque fois que je le réalise encore. Puis à chaque fois que j'entends quelqu'un m'en parler, je réalise que ça s'en vient. Puis c'est vraiment beau tout ça. Puis c'est très excitant.
Alors, quand vous avez donc fait ce spectacle au Centre Bell, il y avait des caméras de Netflix un petit peu partout. Est-ce que quand on fait un spectacle avec des caméras dont on sait que ces images-là vont se retrouver dans le fin fond de la Corée du Sud, qu'elles vont se retrouver à Tombouctou et qu'elles vont se retrouver à, dans le fin fond du Wisconsin, est-ce que la pression est énorme ou au contraire, vous vous êtes dit, ben moi, je m'oublie. La raison pour laquelle ils m'ont choisi, c'est parce que il faut que je sois moi-même. Vous situé où au niveau du stress le 23 juillet?
C'est vraiment la deuxième option.
Oui, génial.
Ça a été une question de mettre en place tous les paramètres les plus efficaces pour que je m'amuse puis que je sois moi-même. Tu sais, le Centre Bell était complet. Il y avait près de 15 000 personnes qui étaient là cette soirée-là. Puis ces gens-là, ben, ils s'étaient déplacés pour venir me voir, passer une soirée comme je le fais habituellement, que ça soit une salle de 200 personnes ou que ça soit 15 000 personnes. Donc, mon équipe a vraiment été bonne là pour faire un travail pas me protéger, mais me mettre un peu dans une petite coquille pour que je sois moi-même, que je m'amuse. Puis il fallait pas que j'y pense, parce que ça aurait été du stress inutile, je pense.
Est-ce que c'est payant, faire un spectacle qui est diffusé sur Netflix?
Ben en fait, ça offre surtout plus de budget pour monter un spectacle qui est vraiment comme... c'est à grand déploiement de faire un spectacle au Centre Bell, mais moi, je ne savais pas à quel point ça coûtait cher. Là, quand j'ai commencé, parce que moi, je suis tout le temps coproducteur de mes spectacles.
D'accord.
Fait que là, de passer d'une salle de 500 personnes à une salle de 15 000, quand j'ai vu des coûts de location et tout, j'étais comme, bon, mais parfait, on va peut-être annuler ça. Fait que là, ben d'avoir Netflix qui rembarque, ben ça nous permet d'avoir plus d'éclairage puis d'offrir une expérience encore plus fantastique aux gens qui se sont déplacés là, le 23.
Alors, il devait y avoir des bonnes croustilles quand même dans la loge quand c'est Netflix qui paye.
Oh mon Dieu, non, mais je veux dire, il y avait des fish tacos, là. On a bien mangé.
Des fish tacos. Ah, ça, c'est absolument formidable. Donc, je reviens quand même à cette idée dont je parlais tout à l'heure. C'est fou parce que ça veut dire quand même que votre spectacle va être doublé, pas doublé, mais il va avoir des sous-titres en coréen, en punjabi, en espagnol, en italien. C'est vraiment ça, Netflix, ça va être partout à travers le monde. Est-ce que ça vous réjouit, cette perspective-là? Ça vous effraie? Comment vous voyez ça?
Ben en fait, on dirait que comme j'arrive pas encore à me faire à l'idée, tu sais, puis juste de voir exemple les montages qu'on approuvait et tout, il y avait un premier sous-titre qui était ajouté en anglais, tu sais, juste de voir comme mon contenu humoristique qui était traduit en anglais, ça me faisait rire, je trouvais, tu sais, ça sort de l'ordinaire, fait que de penser que je pense que 17 langues, je pense que ça va être traduit en 17 langues, fait que on dirait que j'ai pas de référent de me dire oh oui, ça va être ça, puis fait que j'ai juste vraiment hâte de voir les répercussions, puis tu sais, est-ce que je vais me faire écrire par des gens à l'autre bout de la planète sur les réseaux sociaux qui me disent qu'ils m'ont comme écouté dans d'autres langues. On dirait que je sais pas, j'ai juste vraiment hâte de me faire surprendre par les répercussions de tout ça, là.
Mais c'est surtout que quand vous allez voyager, mettons que justement vous allez, je sais pas, moi-même, si vous allez en Espagne, moi, je reviens toujours avec la Corée parce qu'ils nous ont envoyé Squid Game, on peut bien leur envoyer Matt Duff, mais c'est un bon échange de procédés. Mais mettons que vous allez en Corée, puis peut-être les gens vont vous arrêter dans la rue parce qu'ils vous auront vu à Netflix, puis ils ont trouvé que vos blagues sont drôles. Il y a cette possibilité-là aussi, là.
Ben, la possibilité existe. On dirait que dans ma tête, je me dis, je me fais aucune attente avec tout ça, mais s'il faut qu'un jour je sois dans un autre pays puis que les gens me reconnaissent, je veux dire, je vais crier, là, ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup.
Ça va être énorme. je disais dès le début que chaque fois que vous faites quelque chose, ça me fait rire. Même si je le sais, je suis pas votre public cible, c'est pas grave, je vous aime quand même. Mais y a un truc que vous avez fait et vraiment là, j'en suis restée, la mâchoire m'est tombée et elle est pas encore remonté. C'est un projet que vous avez fait avec une certaine Véro. On en écoute un tout petit extrait. OK. Alors, il faut voir Véro dans ce clip-là, mais c'est, premièrement, elle est méconnaissable. En plus, elle dit des énormités, des vulgarités. Je veux dire, c'est à se mourir de rire. Et moi, j'adore quand des gens cassent leur personnage. Parlez-moi de cette complicité que vous avez depuis un bon moment maintenant avec Véronique Loutier. Et comment vous avez réussi à lui faire dire « il fait noir dans mon cul ». Je veux dire, c'est quand même Véro, là.
Ben en fait moi, faut comprendre que quand je fais des projets, mon modus operandi, c'est toujours de, si on a, c'est comme de pousser les trucs le plus loin possible puis de concrétiser des idées qui peuvent paraître parfois farfelues. Fait que je pense que ça a juste été un trip, ça a été fait vraiment dans le plaisir. Fait que Véro, oui, embarqué, elle s'est pas posé de questions, c'était le fun, ça venait d'un insight qu'on avait, tu sais, avec nos lives sur les réseaux sociaux et tout. Puis moi, je veux juste vraiment préciser une affaire. Vous avez dit que vous étiez pas dans mon public cible, mais moi, dans ma vie, dans ma carrière, j'ai pas un public cible avec l'âge.
Non.
C'est pas une question d'âge qui embarque dans mes folies. Je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Toutes les gens qui me suivent, c'est juste des gens qui veulent avoir du fun, qui veulent prendre la vie un peu à la légère puis changer les idées. Ma plus grande femme de 73 ans, j'en ai de 6 ans. Fait que je pense que y a vraiment pas de gêne à avoir, puis c'est pas une affaire d'âge. Vraiment, vraiment pas. Tout le monde est bien mis.
D'accord. Bon, ben alors moi, je me sens très solidaire de votre fan qui a 6 ans. Celle de 73 ans, non, mais celle de 6 ans, oui, parce que moi, à l'intérieur, je suis une petite fille de 6 ans et j'adore toutes ces blagues-là. Pipi, caca, poil, pète, j'adore. Ça me fait énormément rire. Mais je dis pas que c'est ça que vous faites, mais vous en faites des fois et ça me fait beaucoup rire. Je veux absolument qu'on parle, parce qu'on a parlé évidemment de ce spectacle avec Netflix et je vous en félicite parce que c'est quand même assez majeur, puis je pense que dans votre carrière, il va évidemment y avoir un avant et un après. Mais vous êtes aussi porte-parole pour l'opération Nez Rouge, puis c'est le temps d'en parler. Comment vous avez été approché? Je sais que vous avez déjà travaillé pour Opération Nez Rouge, mais devenir porte-parole, c'est quand même autre chose. Pourquoi cette cause-là et pas une autre?
Ah ben je suis tellement content. Premièrement, il y a tellement de causes. J'aimerais ça pouvoir donner du temps pour tout, mais malheureusement c'est pas possible. Mais Nez Rouge, je l'ai vraiment comme de, c'est quétaine à dire, mais de tatouer sur le cœur. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 10 ans, j'ai été responsable des communications pour Opération Nez Rouge au Saguenay. Fait que j'étais tout jeune, j'étais au cégep, puis ben j'étais encore jeune en fait, mais je m'occupais vraiment de faire les communications puis de faire rayonner Nez Rouge au Saguenay. Puis j'ai fait beaucoup de bénévolat avec eux, bien évidemment. Fait que ça fait 10 ans que Nez Rouge, je m'implique le plus possible. Puis quand ils m'ont approché pour être porte-parole, je capotais, je trouvais ça tellement fun. Mais secrètement, je savais que ça allait arriver un jour. Parce que j'étais comme, on dit que ça peut pas ne pas arriver parce que j'aime tellement cette cause-là. Puis on est en plein dedans, là, tu sais, les deux dernières soirées, j'ai fait des raccompagnements. Fait que c'est super. Puis on a besoin de bénévoles partout à travers le Québec. Puis moi, la chose que je dis tout le temps aux gens quand on parle de Nez Rouge, c'est que aller passer des soirées à faire du bénévolat pour Nez Rouge, c'est le fun. J'ai apporté une de mes amies en fin de semaine pour la première fois, elle me dit, ben voyons donc qu'on a du fun de même, puis des aussi belles soirées. Fait que je lance l'appel aux gens. Plus il y a de bénévoles pour Nez Rouge, ben plus c'est de gens qu'on peut raccompagner en sécurité à la maison. Fait que pas game, allez-y, c'est vraiment, vraiment le fun.
Ben surtout que maintenant, je peux le faire parce que moi, je bois plus une goutte d'alcool. Donc, je pourrais tout à fait être accompagnatrice pour Nez Rouge. Mais juste, vous me dites que vous l'avez fait pendant 2 soirées en fin de semaine. Les gens doivent quand même faire le saut quand ils appellent l'opération Nez Rouge, puis que la personne qui se présente avec un véhicule, c'est Matt Doff avec ses cheveux longs bouclés et ses petites lunettes. Ils doivent quand même... Est-ce que les gens partent à rire? Est-ce qu'ils vous reconnaissent?
Ben oui, les gens sont contents, les gens partent à rire, puis d'autant plus que vendredi soir, j'allais faire des raccompagnements avec Julie Snyder, fait que c'était haut en couleur, puis le monde, ils sont le saut de nous voir arriver dans leur partie de bureau, mettons.
Oui, ça doit être assez particulier, en effet. Écoutez, Mathieu, il vous reste quelques spectacles quand même de la petite tournée d'automne, Granby, Gatineau, et à chaque fois, c'est complet. Est-ce qu'on peut dire que 2022, c'est votre année?
Hey, 2022, c'était une belle année. 2023 va l'être aussi. C'est toutes nos années. On peut décider que c'est nos années à chaque année.
Bon. Puis, est-ce qu'on a le temps de parler un petit peu de la bande dessinée? Mathieu Dufour, la bande dessinée?
Oui. Ben oui, à 100%.
Ben, allez-y, décrivez-nous là, parce que, il y a peut-être des gens qui sont pas encore au courant que vraiment vous déclinez sous toutes les plateformes. Il manque juste les tasses à café, Mathieu Dufour, puis
ça s'en vient.
Ça s'en vient, hein? 2023.
Non, mais la bande dessinée, c'est que moi, dans la vie, sur scène, j'improvise, j'écris jamais de texte, je raconte des anecdotes qui me sont arrivées, puis j'aime ça comme faire rire les gens en racontant des histoires. Puis sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'histoires clés, là, des histoires qui ont marqué les gens puis qui me suivent d'année après année. Puis la bande dessinée, on s'est fait approcher par une maison d'édition pour écrire un livre, puis bien humblement, mais j'avais rien à dire. Là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que j'écris? Fait que mon ami de mon équipe, en fait, a dit, on préfère une bande dessinée. Elle a dit ça en joke un peu. Puis moi, les jokes qui vont trop loin, c'est ma passion. Fait que en 3 mois, on n'avait rien de fait. On a sorti une bande dessinée. Puis c'est bien excitant. Là, je fais la tournée des Salons du Livre. J'ai fait ça dans les derniers mois. Puis j'adore ça. Un autre projet, une autre folie, mais bien aligné sur mes valeurs. Puis c'est tout le temps fun.
Ouais. Alors et sur la page couverture, c'est vous avec vos distinctives bottes à talons hauts de danseuse tout nue. On adore ça. Merci beaucoup Mathieu. Changez pas s'il vous plaît. J'espère que si je fais une entrevue avec vous dans 10 ans ou dans 15 ans, vous ne serez pas assagi, vous ne vous serez pas calmé, vous serez pas rentré dans le rang. J'adore.
Je suis capable de faire la promesse aujourd'hui que ça arrivera pas là ça.
Parfait. Bon, on va l'enregistrer et dans 15 ans sur Cube Radio, on vous le refera jouer et je suis sûre que vous aurez tenu vos promesses. Puis, écoutez, à partir du 22 décembre, on regardera ça sur Netflix. Entre-temps, on fait appel à Opération Nez Rouge quand on a pris un petit verre de trop. Merci beaucoup, Matt Doff. Ça a été vraiment un plaisir.
Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée.
Merci, au revoir.
Sophie Durocher.
Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. La pile à lire de Gabrielle.
C'est bientôt le temps des fêtes. Vous allez peut-être avoir envie de lire pendant vos vacances, ou alors vous cherchez des suggestions de cadeaux. Il y a toujours un oncle, une tante, un cousin, un neveu, quelqu'un. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on offre à la personne qui a tout? Offrez donc des livres. Et justement, j'ai devant moi Gabrielle Caron, humoriste, animatrice du balado J'ai fait un humain et ambassadrice de Cube Livre, la plateforme où vous allez pouvoir vous procurer tous les livres dont je parle avec Gabrielle. Et cette semaine, c'est Pandore, un livre de Suzanne Stokes Chapman, donc une traduction, c'est publié chez Michel Lafon. Quand on dit Pandore, Gabrielle, évidemment, on pense au mythe de Pandore, exact. La boîte de Pandore, une fois qu'elle est ouverte, on est plus capable de la refermer, maudit sapin. Alors, raconte-nous l'histoire de ce livre, s'il te plaît.
Mais oui, mais avant même de commencer, il faut que je mentionne la couverture, moi, que magnifique. J'ai trouvée absolument magnifique. Et comme tu l'as dit, hein, c'est un livre qui est clairement inspiré du mythe de Pandore. Donc, on est à Londres en 1799. Il me semble qu'on a eu beaucoup de livres cette saison-ci.
Oui, britanniques et des livres qui se passaient, oui. Soit 18e, soit 19e, on en a eu beaucoup, en effet.
Mais oui, donc c'est peut-être en vogue, là. On est peut-être dans une inspiration londonienne, c'est ça. Donc, on retrouve Dora Blake, de son vrai nom, Pandora Blake, qui est orpheline. Ses parents étaient propriétaires d'un magasin d'antiquités. Ils sont décédés lors d'une fouille archéologique qui a mal viré. Et elle se retrouve à être sous la tutelle de son oncle, Ezekiah. Et là, t'as roulé des yeux.
Il n'est pas juste Ezekiah, il est exécrable. Il est vraiment... pas fin.
Mais détestable de A à Z. Tu sais, des fois, il y en a des méchants qui ont quand même un bon côté. Ou... lui, il n'y a rien, là. Il a absolument
aucune
rien.
Rédemption.
Ah non. Non, aucune. Et plus l'histoire avance, il est de pire en pire. Tu sais, il n'y a même pas un arc où, justement, ça, ouais. ça relève. Il ne fait que descendre et descendre et descendre. Bref, elle est donc sous la tutelle d'Ezekiah, doit apprendre à cohabiter avec lui. Ezekiah qui a transformé le beau magasin d'antiquité en magasin qui vend des contrefaçons. Lui, il veut faire de l'argent, donc il se soucie pas trop. Et on se rend compte que Ezekiah, ben, baigne peut-être dans un trafic illégal.
Un petit peu louche.
Oui, marché ouais. noir, peut-être. Et il vient à acquérir, justement, un énorme vase, un pitos, comme on l'apprendra. Moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc, qui est d'origine grecque, qui est magnifique et qui est antérieur à l'histoire du monde connu. Évidemment, du monde connu à cette époque. Et là, c'est à partir du pitos que vraiment... tout commence parce que Ezekiah devient obsédé par ce vase grec. Pandora, elle aussi, veut le dessiner parce qu'elle rêve de devenir créatrice de bijoux. Oui. Donc, elle est attirée par le vase, mais pas pour les mêmes façons. À travers tout ça se mêle un jeune homme qui s'appelle Edward, que Lawrence. J'ai tellement ouais. aimé.
Alors ça, c'est un personnage qui est drôlement intéressant parce qu'on sent poindre évidemment bon l'histoire d'amour et tout. Et l'auteur quand même prend le temps dans les descriptions. C'est pour ça que le livre fait quoi? 400 pages à
oui,
peu près?
Un bon 400 pages.
Ouais, un bon 400 pages. C'est qu'elle prend le temps de situer chacun des personnages avec son histoire, avec ses problématiques, comme justement Madame Blake, qui est dont les parents... Alors, on a toute la description, la façon dont ses parents sont morts, toute son histoire, etc. Donc, mais oui, c'est un personnage sympathique, ce Monsieur Lawrence.
Mais oui, puis on se ramène encore une fois à Londres au début du 19e siècle, dans toutes les convenances, tout le respect envers la gente féminine, vouloir aider, vouloir être un peu un sauveur. Dora qui, elle, moi, j'ai adoré ce personnage parce que très forte, très indépendante, elle sait ce qu'elle veut faire.
Avec son oiseau sur l'épaule.
Avec sa pie qu'elle a apprivoisée, qui l'aide dans sa création de bijoux en allant chaparder un peu partout dans la ville. Donc, vraiment, j'ai trouvé un personnage hors de l'ordinaire parce qu'on est peut-être plus souvent habitué à les pauvres femmes qui attendent un sauveur. Elle, c'est pas du tout ça.
Non, non, elle prend son destin en main.
Oh, absolument. Note-dedans. Donc, pour bien la cadrer.
T'écris ça comment? Attends, A, 2N, A, D, D, A. Non, je te taquine. Oui, elle note-dedans, c'est vrai. Elle est vraiment très... c'est un personnage intéressant.
Absolument. Et là, vraiment, j'en ai parlé, mais le déclic, puis je veux pas non plus tout vous révéler.
Oui, non, il faut pas.
Mais le déclic vient vraiment du pitos. Parce que, il y a Ezekiah qu'on se rend compte peut-être son histoire en lien. Là, le décès des parents de Dora, c'est peut-être pas un accident, finalement. Et qu'est-ce que cache ce fameux pitos et jusqu'à quelle extrémité les personnages seront-ils prêts à aller pour découvrir la vérité? gravité autour de cet artefact. Donc, en gros, je n'en dirai pas plus, mais c'est l'histoire, donc, de Pandore.
Alors, parle-moi un petit peu de l'auteur, parce que, bon, on le sent quand même dès les premières pages que c'est quelqu'un d'érudit, quelqu'un, quand elle parle, mettons, justement, des antiquités égyptiennes, quand elle parle de l'Égypte ancienne, quand elle parle de la Grèce antique, elle sait de quoi elle parle, elle sait documenter sans que ce soit lourdingue et sans que ce soit pesant.
Oui, tout à fait. On le sent vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches et de travail et pas des recherches Wikipédia. Là. C'est, on sent que c'est vraiment, vraiment étoffé. Donc, elle est professeure, oui, et passionnée de littérature et de mythologie. Donc, déjà, elle a énormément de substance pour venir étoffer l'histoire de Dora. Et j'ai beaucoup aimé apprendre, en fait, qu'elle a décidé de devenir autrice après avoir lu Anne, la maison au pignon vert.
C'est fou, hein?
Quand elle était toute jeune.
Mais oui, il y a des gens, plein de gens comme ça, quand tu parles avec des auteurs, quand tu dises quel est le livre qui les a... qui leur a donné la piqûre, mais que dans ce cas-là, ce soit Anne au pignon vert, j'avoue que c'est vrai que c'est assez charmant.
Et puis, bon, évidemment, Pandore, c'est son premier roman. Moi, j'ai quand même été surprise parce que vu la qualité de l'écriture, la complexité, sans que ce soit excessivement complexe, mais c'est quand même bien tricoté, là. Donc, j'étais surprise que ce soit un premier roman parce que je me serais attendue à ce qu'elle en ait écrit peut-être deux, trois, là, qu'elle se soit déjà fait la main avant. Et on la qualifie vraiment là, de digne héritière de Stacey Halls, donc celle qui a écrit La Nurse du Yorkshire dont on a parlé.
Tu vois comme quoi tout est dans tout.
Tout est dans tout, Sophie.
Non, mais c'est fou comment tout est relié. J'adore ça.
Et
oui, tout à fait.
De Madeleine Miller aussi, qui a écrit entre autres Circé, qui a eu elle aussi un immense succès. Donc, c'est vraiment le mariage entre la Grèce antique et la Londres du début du 19e siècle. Et ça fait vraiment un heureux mélange qui est bien, bien, bien agréable à lire.
Ouais. Et, écoute, moi, je l'avoue, je l'ai commencé, j'ai pas eu le temps de le finir, dès que la chronique va être terminée, tu vois, je m'en vais prendre l'avion ce soir, et dans l'avion, je vais finir le livre, parce que c'est le genre d'histoire où tu commences et tu veux savoir comment ça finit. Tu sais, des fois, c'est un petit peu mystérieux, puis tu dis, bon, ben là, je m'en fous, c'est pas super important. Mais dans ce cas-là, oui, tu veux vraiment savoir, et elle réussit à le rendre quand même haletant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette description, justement, de la vie en Angleterre à cette époque-là, c'est le quotidien des gens, puis le monde des antiquités, il y a quand même tout cet aspect-là où moi, j'aime ça les livres où on apprend des choses, pas juste une histoire qui nous est racontée, mais qu'on peut s'immerger vraiment à une autre époque, voyager dans le temps.
Mais absolument, puis souvent j'ai l'impression que dans les romans, on va beaucoup dans la haute société, on va beaucoup dans tout ce qui est beau, reluisant, les balles. Et là, on s'en va dans les docks, gens qui charrient les excréments, qui nettoient la ville. Il y a des descriptions de Londres, je te jure, ça puait chez nous, en lisant.
J'adore ça. Et de toi aussi, on peut dire « elle n'a dedans ».
Ah oui!
Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce qu'écoute, les conditions d'hygiène à l'époque, c'était lamentable. Et en effet, toutes ces grandes villes-là, ça peut, parce que les gens, ils jetaient leurs excréments un petit peu partout. Et en effet, les docks, et aussi le personnage de, comment il s'appelle, Letty, là.
Ah oui, qui est la aussi, gouvernante.
Ah oui,
la gouvernante et maîtresse.
Ouais, c'est ça. On va pas trop vendre non plus d'éléments, mais elle, Letty, c'est tout un numéro, celle-là.
Oui, mais Letty, moi, ça a été un de mes personnages que j'ai aimé détester, mais dont j'ai beaucoup aimé la rédemption. Donc, je n'en dirai pas plus, mais vraiment, Pandore, là, soyez prêts, parce que c'est exactement comme la boîte de Pandore. Un coup qu'on ouvre le livre, incapable de l'arrêter.
Comme c'est bien dit, comme c'est bien belle conclusion. Donc, le livre Pandore de Susan Stokes Chapman, publié chez Michel Lafon, disponible, bien sûr, sur Cube Livre. Merci beaucoup, Gabrielle. Et puis, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Oui, c'est ça, la semaine prochaine aussi.
Oui.
C'est une brique, finalement. C'est toujours des briques.
Toujours des briques. On s'est dit, Sophie, elle aime ça lire. Elle est capable d'en prendre. On fait juste des briques cette saison-ci.
D'accord. Donc, je devrais apporter deux livres avec moi, en fait, dans mon petit voyage en avion. Merci beaucoup, Gabrielle, donc ambassadrice de Cube Livre. Merci beaucoup à Marianne Bessette et Charlotte Duquette à la recherche. Merci à Charlie Marchand à la mise en onde, à la réalisation, et à tout bientôt.
Découvrez la plateforme cubelibre.ca, une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui a à cœur les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de $39. Cube Libre.
Cube Radio.